On a pensé que ce serait intéressant de vous entendre parler du pot, mais d'une autre façon. C'est que depuis la légalisation en octobre dernier, c'était la première fois où on se rassemblait en famille, officiellement aussi là, avec grand-papa, grand-maman, les oncles, les tantes, les cousins, puis les amis. Donc, la première fois, on avait droit à de grands rassemblements. Puis on a pensé que le pot était peut-être venu dans la discussion. Vous en avez peut-être vu ou fumé pour la première fois durant la période des fêtes. Alors, on veut vous entendre. Parlez-nous de votre lien avec la marijuana. Est-ce que c'est un sujet qui a été abordé en famille durant la période des fêtes? On aimerait vous entendre donc durant la prochaine demi-heure au 514-790-9850 ou sans frais de partout au Québec, le 1-866-790-9850. Si vous l'avez essayé pour la première fois, comment vous vous êtes senti? On va parler de tout ça avec deux personnalités, d'un que vous avez beaucoup entendu parler avant et après que le pot ait été légalisé. C'est Hugo Saint-Onge, porte-parole du Bloc Pot. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Et au bout du fil, on retrouve le docteur Gilles Chamberlain, qui est médecin psychiatre légiste à l'Institut Philippe Pinel. Bonjour docteur Chamberlain.
Bonjour.
Bon, première question, d'abord je vais m'adresser à Hugo. Toi, tu parles du pot à Noël depuis longtemps, mais cette année, est-ce que c'était différent les discussions autour de la marijuana chez vous?
Oui, les gens, le débat était fait souvent chez nous en étant le porte-parole, en étant un
militant. Tout le monde t'a posé des questions depuis des années.
Ben oui, c'est ça, même que un de mes oncles m'avait déjà dit « Ah, ça m'a permis d'en parler à mon boss », puis ça, devenait une quinzaine d'années, là, puis notre présence publique a permis une ouverture mettre fin un peu à une stigmatisation. Cette année, ce que je me rends compte, c'est que les gens étaient intéressés à savoir le modèle de la SQDC, comment ça marche, pourquoi c'est le gouvernement fédéral qui s'en occupe, pourquoi c'est pas le provincial qui s'en occupe. Quand on a un retour de marchandises, c'est pas la loi sur option consommateur qui fonctionne, là, c'est la loi fédérale. Donc, c'est comme les banques, c'est un truc qui est séparé du Québec. Donc, il y avait tout un débat sur les questions sur comment, pourquoi il n'y en a pas.
Mais les questions, c'était pas des inquiétudes, c'était pas...
Moi, les inquiétudes, ouais. Ça fait longtemps que je les ai éliminées dans mon entourage.
Toi, oui, mais autour de toi.
Dans mon entourage, ouais. Les gens, j'en ai discuté, okay. Ça fait des années. Puis les craintes qu'on soulève depuis 6 mois, 1 an, c'est les mêmes craintes qu'on soulève là 20 ans, là 30 ans, là 40 ans. Puis c'est toutes des craintes qui restent, à mon avis, des peurs irrationnelles. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. C'est le fait de la manière qu'on les alimente publiquement, ça fait des peurs irrationnelles. Donc, on réfléchit mal à la question.
Mais tu sais que quand tu parles de peurs irrationnelles, ça interpelle beaucoup le monde médical.
Oui, je sais.
Docteur Chamberlain, pour vous, il y a encore des craintes reliées à la légalisation de la marijuana et de la discussion qui peut être banale autour de ces drogues-là.
Écoutez, des craintes, c'est sûr qu'il va toujours y en avoir. La discussion, si on la qualifie de banale, moi, j'aime mieux le voir de façon positive. Si ça permet d'ouvrir le débat, d'en parler, justement, comme on dit, de façon rationnelle, plus saine, de pas diaboliser la chose, si ça permet un dialogue, c'est quelque chose qui est positif, c'est évident. Mais le pot, ça va rester quelque chose qui est néfaste pour la santé. Au même titre que les chips, si on en prend trop, c'est néfaste. Au même titre que fumer, au même titre que d'aller jouer au casino. Donc, c'est quelque chose qui est néfaste pour la santé. Maintenant, effectivement, on avait diabolisé ça. Il y a des personnes qui s'attendaient peut-être à des catastrophes. Si ça permet un dialogue pour expliquer exactement ce que ça représente et exactement où on en est, bien, c'est quelque chose de positif.
Moi, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu durant la période des fêtes et c'est ce qui a initié le sujet de l'émission ce matin. Moi, je suis assez libérale par rapport à la légalisation de la marijuana, puis j'ai une bonne ouverture d'esprit et tout, puis bon, je me disais, je vais tolérer, moi, la légalisation avec certains bémols, mais quand même. Et durant la période des fêtes, j'ai assisté à une scène qui m'a dérangée. Le fils d'un de mes amis, durant la soirée, alors que tout le monde en placotait, il y en avait qui jouaient aux cartes, il a sorti son attirail. Il y avait son gros pot de potes, et là, il y avait son égraineuse, puis son papier, puis là, il s'est mis à se rouler un joint. Il est en âge d'acheter, là. Mais moi, si ça avait été ma fille, je me serais pas sentie bien tout à coup de la voir faire ça. Est-ce que mon malaise, il est généralisé ou est-ce que ma réaction, elle est saine, Hugo?
Elle est normale, ouais. Parce que ça fait 40 ans, 50 ans qu'on nous annonce un hécatombe à chaque fois qu'on parle de potes. Un hécatombe social, un hécatombe sanitaire. Une hécatombe sur les routes, ça va toujours être... c'est comme ça qu'on le présente. Et là, ce que vous avez vu, c'est juste une scène normale d'un amateur de cannabis qui avait... son attirail pour se rouler un joint puis profiter d'un bon moment. Donc, c'est, en même temps, ça peut être choquant pour quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Mais c'est ça qui est la réalité.
Mais mon rôle de parent, Dr Chamberlain, par exemple, mon rôle de parent, là, c'était pas mon fils, là, mais est-ce que ça pourrait être de dire, j'ai un malaise, je veux pas que tu fasses ça devant moi?
Encore, ça dépend comment c'est fait. C'est très bien démontré là, pour les adolescents, que les adolescents vont adopter les valeurs des groupes de pères pour ce qui est des choses, je dirais, superficielles. Par exemple, la coupe de cheveux, les chansons, comment on va s'habiller, comment on va s'exprimer. Mais les valeurs fondamentales, c'est adopter des parents. Et c'est adopter, non pas de ce que les parents vont dire, mais du rôle, du modèle de rôle des parents. Donc, si quelque chose est fait de façon adéquate, de façon appropriée, ces discussions sont là, c'est ce que je dirais pas l'enfant ou l'adolescent, et même le jeune adulte, va retenir, c'est la façon dont ses parents vont agir qu'il va retenir beaucoup plus que ce qui va être dit. Fait que oui. Et moi, je comparais ça un peu, puis je suis tout à fait d'accord, quelque chose qui est interdit tout le temps, où les gens étaient cachés, qui tout d'un coup se fait de façon ouverte, c'est sûr que ça va choquer des gens, et c'est sûr qu'on va rester surpris. Demain matin, si on disait, on n'est plus obligé de s'attacher dans nos voitures avec la ceinture de sécurité, puis que quelqu'un rentre sans s'attacher, tout le monde va dire, wow, tu prends une chance. Mais ça serait légal, mais tout le monde serait surpris quand même. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Je me reste convaincu que non. Mais à partir du moment où quelque chose était caché longtemps, ne devient plus caché, à ce moment-là, c'est sûr que les gens vont être surpris.
Ben, Hugo, t'es d'accord avec ça. D'ailleurs, 100%. Tu dis que la stigmatisation va disparaître à partir du moment où on va arrêter de se cacher, là.
Oui, exactement, parce que la honte, en fait, souvent la honte, c'est un des triggers, là, des éléments déclencheurs, des crises, des psychoses, des troubles, parce que la honte alimente la culpabilisation. Donc, pour moi, au début de ma militance, j'ai croisé Jacques Languérand. Puis Jacques Languérand m'avait conté comme anecdote, ça m'a fait beaucoup sourire, mais ça m'a énormément parlé aussi. Il disait que lui, il s'est caché de ses enfants. Fait que quand ses enfants ont commencé à consommer, mais ils se sont cachés de lui. Donc, finalement, c'est la pire des situations.
Tout le monde se cachait.
Ben oui, parce que c'est ce que tu as montré à tes enfants. En leur montrant pas, finalement, tu leur as montré à quoi? À se cacher. Puis là, c'est probablement le pire des scénarios, parce qu'il n'y a jamais un partage de culture de consommation responsable. Comme par exemple, pour l'alcool chez nous, je veux dire, mon premier verre de bière, premier verre de vin, je sais pas, j'ai 15, 16, 17 ans, à Noël, tout le monde est là. Vous voyez, il y a un apprentissage, il y a un partage de comment bien consommer. Bon, il y aura toujours des gens qui vont trop boire dans un party, mais ça aussi, c'est de l'apprentissage de voir quelqu'un qui dérape, qui va trop loin. Donc, pour moi, cacher, c'est pire. Puis c'est ça, on vivait dans le monde caché. Puis là, vous, dans votre expérience, vous avez vécu finalement quelqu'un qui est comme sorti, qui a juste fait un geste qui est totalement normal pour un amateur de cannabis.
Mais ma réaction à moi, elle est normale aussi.
Aussi, parce que c'est
il faut que tout le monde apprivoise ça.
Oui, c'est
là.
Ça, exactement.
Ouais. On a au bout du fil, Dr Chamberlain et Hugo, un jeune homme qui a parlé de ça pour la première fois avec sa famille durant la période des fêtes. Bonjour, Paolo.
Bonjour, madame.
Oui, racontez-nous ce qui s'est passé.
C'était soirée du 25 décembre, comme d'habitude, tout le monde est en famille, puis tu sais, c'est les verres de vin, le souper, puis le dessert, puis tu sais, quand on voit que les adultes commencent à devenir un peu chauds, tu sais, on est quand même une famille nombreuse, fait que moi et mes cousins, on décide de, tu sais, descendre au sous-sol pour, comme tu sais, rouler un joint, comme tu sais, on a déjà fait ça auparavant. Fait que, tu sais, vu que c'est un gars aussi, on est comme, ouais, OK, ça pourrait être permis. Fait qu'on avait prévu d'aller dehors jusqu'à temps que nos parents nous demandent qu'est-ce qu'on faisait. Puis on s'était juste pas caché. On leur avait dit qu'on allait dehors fumer un peu. Et pour eux, c'était inacceptable. Selon notre culture à nous, c'est, tu sais, c'est à 18 ans, tu sais, tout le monde a pu avoir son verre de bière, son verre de vin à 18 ans. C'est légal, c'est normal. Mais pour eux, c'est pas parce que le pote est légal que c'est nécessairement permis dans la maison, quoique l'alcool est permis. Fait que ça, c'était un sujet assez ambigu sur un souper de Noël surtout. Mais, tu sais, on s'est pas caché, puis on leur a dit que, tu sais, si c'est socialement accepté qu'une personne peut être soit ivre à un party de Noël ou avoir consommé de l'alcool au party de Noël, si le pote est rendu légal, on pouvait, nous aussi, être dans un autre état, mais sans nécessairement en abuser non plus.
Docteur Chamberlain et Hugo, il va falloir se donner le temps, là, parce que ça fait seulement 3 mois que c'est légal et ça demande de part et d'autre un apprentissage. Mais est-ce que vous aimez ce que vous entendez, Docteur Chamberlain? Est-ce que la réaction des parents est la bonne?
Mais je trouve que l'exemple est typique, là, et c'est un très bon exemple, votre auditeur, parce que on parle de socialement acceptable. Effectivement, ça va devenir socialement acceptable, comme le fait de pouvoir s'enivrer ou comme le fait de s'attendre à ce que quelqu'un mange trop dans le buffet au point de qui aurait pas dû. Fait que oui, ça va devenir socialement acceptable. La question, est-ce que ça reste une bonne chose? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'un parent va souhaiter que son enfant ait besoin, mettons, d'alcool pour avoir du plaisir? Il y a plein de jeunes qui peuvent pas conduire, là, c'est tolérance zéro, là, et qui vont avoir du plaisir quand même dans les parties. Fait que si on est un parent, on souhaite que notre enfant soit capable d'avoir du plaisir et du fun sans avoir recours nécessairement à aller jouer dans des machines, à fumer de la cigarette, à boire de l'alcool ou à fumer du pot. Est-ce que ça va devenir socialement acceptable? Sûrement. Est-ce qu'il va avoir plus de problèmes qu'avant? Peut-être pas tant que ça, mais est-ce qu'un parent va souhaiter que son enfant ait besoin de ça? Moi, je suis convaincu.
Paolo, vous avez quel âge?
21 ans,
donc il est en âge de consommer. Est-ce que vous l'avez fumé, votre joint, finalement?
Honnêtement, non. Okay. Je vous dirais que non, par respect pour mes parents, puis d'autant plus que, tu sais, je vous dirais que, comme petite bémol dans tout ça, tu sais, c'est chez nos parents, donc, tu sais, c'est leur règlement.
Donc, par respect.
Par respect, c'est chez eux. Mais la question maintenant, c'est si, par exemple, mes parents viennent chez moi, est-ce que c'est encore plus accepté? Considérant que c'est chez ma demeure.
Ouais, ben là, écoute, ça va être à vous d'imposer vos limites, j'ai l'impression, Paolo, mais effectivement, moi, ce que je trouve sain, c'est que là, à partir de maintenant, vos parents savent que vous fumez. Déjà, donc, il y a une porte qui a été entrouverte et ça ouvre peut-être à la discussion, là, parce qu'il faut qu'on en parle. Tu sais, à partir du moment où c'est légalisé, ça va susciter plein de réactions partout, mais ça va aussi engendrer une discussion, là. Ben, merci beaucoup, Paolo, de votre appel.
Merci beaucoup à vous, Patrick.
Bonne chance.
Excellente année.
Merci, une bonne année à vous aussi. Au revoir. On va s'arrêter pour une pause et au retour d'autres appels, des témoignages donc de gens qui ont eu peut-être pour la première fois, qui ont été confrontés à une consommation de marijuana autour d'eux. Si vous voulez réagir, 514-790-9850, c'est le numéro de Montréal, et sans frais de perte au Québec, le 1-866-790-9850. Ben, c'est très intéressant, la discussion est franchement le fun à avoir parce que on a beaucoup parlé cet automne et au début de l'hiver de ce que ça suscitait chez l'humain, la légalisation de la marijuana. Puis il y a comme deux clans, là, c'est clair, à chaque fois qu'on en parle. Mais là, d'en parler d'une autre façon, de savoir comment ça s'est passé chez vous durant la période des fêtes. Est-ce que vous avez été confronté pour la première fois dans votre entourage à une consommation de marijuana? Est-ce que vous l'avez, vous, essayé pour la première fois? Beaucoup de réactions, beaucoup d'appels. On va aller parler avec Pascal, qui, je pense, a révélé à sa famille qu'il consommait pour la première fois durant la période des fêtes. Bonjour, Pascal.
Bonjour, Mme Proulx, ça va bien?
Ça va bien, merci vous-même.
Très bien, merci.
Vous avez quel âge, oui, Pascal?
Moi, j'ai 32 ans. Ça fait 17 ans que je consomme du cannabis. Donc, c'est sûr que oui, avant, c'était illégal, si on ne se le cachera pas. Moi, je veux dire, mes parents savaient que je consommais depuis un certain temps. Mais tu sais, c'était plus ma famille immédiate là, qu'on voit une fois ou deux par année, que les autres étaient peut-être moins au courant. Fait que c'est sûr que la discussion est venue sur ce sujet. Puis à ce moment-là, ben oui, j'ai décidé, comme un peu l'auditeur qui vous a parlé avant, j'ai sorti mon kit, je me suis roulé un joint, mais en même temps, on avait la discussion. Donc, c'était pas nécessairement d'être provocateur, mais c'était plus de continuer à inciter la consommation. Puis on a discuté de ce que c'était, parce que moi, je consomme deux sortes. Je consomme ce qu'on appelle un cannabis de jour et un cannabis de soir. Fait qu'un cannabis de jour qui est plus ascendant sativa, qui va réveiller un peu plus, puis un cannabis de soir qui va être plus endormant, justement, pour avant d'aller me coucher. C'est le genre de consommation que je fais. Fait que si on en a discuté par rapport à ça. Mais est-ce que ça crée un malaise pour dire au point que c'était non? Pas vraiment, je veux dire. Ils m'ont laissé faire, mais moi, j'ai été assez humble pour dire je vais aller fumer, oui, à l'extérieur, malgré le fait que c'est une maison qui est fumeur. Fait que c'est sûr que je suis allé fumer à l'extérieur.
Ah ouais.
Mais ça a quand même été accepté de ce côté-là. Puis moi, quand je sais que ma famille vient chez moi, moi, je ne suis pas un grand buveur d'alcool à la base. Je ne suis pas quelqu'un qui va boire beaucoup durant soit les occasions, les soupers. Moi, je suis plus un consommateur. Fait que je vais consommer un joint plutôt que de boire une bouteille de vin. Fait que c'est de voir un peu la différence entre les deux. Mmh. Moi, j'ai tiré une ligne entre les deux. Je suis pas un consommateur d'alcool, je suis un consommateur de cannabis.
De cannabis.
Fait que le monde le savent. Fait que, oui, ça a créé peut-être un malaise de me voir faire. C'est sûr que tu sais, j'ai 32 ans, j'ai une famille, j'ai des enfants. Oui, c'est sûr que ça peut être peut-être choquant au début de le voir comme ça. Mais en dehors de ça, je veux dire, c'est rendu légal. Comme j'ai expliqué, je suis pas en train non plus d'exiger aux gens de consommer absolument. J'ai juste fait face à la musique en disant, moi, je suis un consommateur, puis voici, puis je suis comme ça. Puis ils l'ont vu de la bonne façon, je veux pas. Puis comme je dis, moi, je suis un consommateur de cannabis depuis longtemps, fait que je connais mes produits, je sais ce que j'achète.
Et Pascal, je suis curieuse de savoir vous achetez où vos produits, parce que la SQDC, on est encore en rupture de stock. On a vérifié ce matin, il y a, sur 95 produits, il y en a 82 qui sont en rupture de stock dans les SQDC.
C'est sûr que oui, j'essaie de m'approvisionner le plus possible du côté légal, mais malheureusement, c'est sûr que je reste encore du côté illégal. Moi, je vais être très honnête, je l'importe carrément de coast to coast. Fait que c'est la façon la plus simple pour moi. Rapport qualité-prix aussi, les prix sont plus avantageux. Fait que c'est juste une question de budget. Toujours une élaboration de budget. Moi, je veux dire, j'ai un budget établi par mois. Je dépasse pas ça non plus. Fait que c'est une question de budget. Fait que moi, oui, je l'ai fait importer du Canada d'ailleurs. Mais c'est parce que justement, on a un problème d'approvisionnement. Sinon, c'est sûr, je serais un consommateur de la SQDC. Mais malheureusement, comme vous dites, avec le bye-bye, la joke qu'ils ont faite là-dessus. Moi, je l'ai trouvé bien drôle. Pour dire que toi, t'étais vieux de My Girl Boxing Day, mais c'est ça quand même.
Ouais. Ben, merci beaucoup, Pascal, de votre appel. Ça me fait penser à Marie-Claude Lavallée qui remplace Paulude sur nos ondes ici chez Cogeco, nous racontait, elle nous envoyait un petit courriel parce qu'elle savait qu'on allait aborder le sujet, puis elle nous disait que samedi après-midi, elle était au centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, puis elle a vu une longue file d'attente à tel point qu'elle pensait qu'il y avait une vedette quelque part dans un magasin, puis elle a demandé aux gens « qu'est-ce que vous faites là? » Puis elle s'est fait répondre « ben on attend en file pour la SQDC, pauvre monde! » Ils attendent pourquoi, les gens en file d'attente? C'est incroyable.
Docteur, je comprends pas non plus.
Non. Docteur Chamberlain, qu'on ait cette discussion-là avec Pascal, puis qu'on parle de pénurie à la SQDC, est-ce que ça vous trouble encore ou vous allez finir par vous habituer?
Mais ce qui me trouble dans ça, c'est que si on a légalisé ça, c'est sûrement pas pour une question de santé. C'est normal que les médecins aient quand même levé un drapeau. On l'a légalisé probablement justement pour des questions économiques, des questions sécuritaires, des questions judiciaires, criminaliser des gens pour des consommations. Tout ça, c'est vrai que ça n'avait pas de bon sens et ça nécessitait d'être fait d'après moi. Du côté de la médecine, c'est normal qu'on lève le drapeau pour mettre les bémols. Mais en ce moment, c'est comme si on avait le pire des deux mondes, là. Dans la mesure où, là, c'est légalisé, mais il y a encore beaucoup de ventes sur le marché noir. Un des problèmes sur le marché noir, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on prend. Et un des problèmes du pot, de façon générale aussi, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on absorbe. Ça varie d'une personne à l'autre et on essaie de contrôler ça un peu plus pour que les gens savent un peu plus précisément si on consomme. Et là, on a un peu le pire des deux mondes parce qu'on a encore le marché noir, on a encore tout ça et c'est légalisé.
Mais ce qu'on appréhendait là, quand ça a été avant la légalisation, on avait l'impression que ça allait être l'apocalypse. Là. Ce n'est pas arrivé quand même.
Non, puis je ne sais pas qui appréhendait l'apocalypse non plus. Ouais, ce qu'on disait, c'est qu'il y a des effets à long terme. Si j'avais un exemple à donner, là, qui est un peu caricatural, mais si on a une substance qu'on consomme à un certain âge, en temps de développement, qui ferait qu'on serait un pouce moins grand, par exemple. Mais c'est important d'avertir les gens que s'ils consomment ça régulièrement, ils risquent d'être un pouce moins grand. Là, c'est la même chose sur le cerveau. Pendant que le cerveau est en développement, si on en prend, ça se peut que notre cerveau ne se développe pas de la même façon. Puis ça, c'est démontré. Fait que c'est normal c'est normal qu'on le dise, et c'est normal qu'on avise les gens, c'est normal qu'on avise la tranche d'âge la plus à risque. Comme pour n'importe quelle substance, il y a des tranches d'âge, il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres. Et c'est normal qu'on le fasse. Les effets aigus du pot, il y en a. Il y en a qui vont psychoser la première fois qu'ils vont en prendre. C'est sûr que les psychiatres ont un biais de sélection. Là. On a tous l'idée, le souvenir quant à l'urgence de la personne qui a consommé la première fois qui est arrivée paranoïde. On voit pas les 1000 autres qui ont pas eu de problème. On voit celle-là.
Mais exact.
C'est sûr que pour nous, celle-là est trop. Fait que c'est sûr qu'on va le dire. Mais des nouveaux consommateurs, vraiment nouveaux, je sais pas à quel point il y en a eu plus qu'il y en avait. Ça va être progressif, l'effet. C'est un effet plus à long terme qu'on va devoir mesurer.
Et comme on le disait tantôt, Hugo, il faut se donner le temps d'apprivoiser tout ça, puis de voir comment ça va se passer, puis il va falloir s'ajuster en fonction de ce qui va arriver.
Ben moi, tu vois, je vais soulever un autre drapeau, c'est que c'est bien de jouir de la vie, de s'amuser, ça l'aide aussi à passer du bon temps. Donc, on oublie de regarder la question du cannabis sous cet aspect, disons, plus culturel. On est toujours
comme
en train de le regarder.
Comme on le fait avec les bons vins et tout ça.
Puis moi, mon expérience, ça fait des années, là, j'ai côtoyé des milliers d'individus qui sont des amateurs de cannabis depuis 20 ans. Et la raison principale, c'est qu'on a du fun. Puis c'est vrai que c'est le fun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais de parler juste des risques, puis de se mettre tellement en amont, c'est souvent oublié pourquoi les gens font ça.
Mais j'aimerais parler, moi, d'une autre chose qu'on oublie.
Il vous reste 20 secondes, Dr. Chamberlain.
Okay. La question à poser, c'est est-ce qu'on peut avoir autant de fun sans prendre? Et moi, je pense que
c'est
oui.
Sûr que oui.
Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller jouer au casino pour avoir du fun. Pour moi, c'est un peu la même chose.
Ouais. Ben, merci beaucoup à tous les deux de votre participation. Hugo Saint-Onge et Dr. Gilles Chamberlain. À tous les deux, une très, très belle année 2019. Que vous fumiez ou pas, là.
Ben oui.
Une belle à 2019. Nous, on se retrouve demain dès 10h. Passez une bonne journée. Au revoir.